Bah, bonjour donc, bienvenue pour le débat. Donc, je ne vais pas dire grand-chose, Daniel va tout vous raconter. Donc je vais lui céder la parole, il va faire une intervention de 20 minutes, une demi-heure. Sur l'importance de la question religieuse dans l'idéologie, enfin pas l'idéologie, dans la pratique et les idées libertaires. Donc je vais lui laisser la parole parce que je suis un peu fatigué depuis hier. Donc, ouais.
Merci. Je vais me contenter de rappeler quelques. Je pense que la discussion. Elle aura lieu après, donc je vais me contenter de rappeler des faits à la fois historiques et des faits théoriques pour peut-être qu'on sache un peu comment l'anarchisme s'est situé par rapport à Dieu et la question religieuse. Donc je voudrais rappeler deux faits historiques, je ne vais pas tout rappeler, mais deux faits historiques. Le premier, c'est que contrairement à d'autres mouvements révolutionnaires, je pense à des mouvements marxistes en particulier, l'anarchisme a toujours insisté sur l'importance de l'athéisme. Donc, quand Bakounine veut créer un journal, il fait 8 points. Le programme du journal, il y a 9 points. Le premier, c'est l'athéisme. Il y a plein de textes comme ça. Donc, ce qui est assez original et ce qui tranche avec l'espèce d'agnosticisme, vous savez qu'il y a une discussion sur le monde libertaire là-dessus, du marxisme qui, par exemple, considère que la question religieuse, il s'y intéresse pas directement, sauf quand ils sont au pouvoir, mais c'est un autre cas de figure, et qui donc tendait la main aux catholiques en 36 et considérait que le camp progressiste devait inclure les gens qui croient et ceux qui ne croient pas, comme on disait, pour la résistance. Donc, le premier fait historique, c'est pourquoi, on pourrait le problématiser en disant, mais pourquoi l'anarchisme insiste-t-il si fortement sur l'athéisme? Donc on verra s'il y a moyen de répondre à cette question. Le deuxième fait historique, qui est beaucoup plus dur, c'est qu'une des régions où il y a eu un mouvement anarchiste très fort dans un contexte révolutionnaire s'est traduit par une violence anti-religieuse très grande. Donc c'est l'Espagne en 1936. Où il y a des centaines et des centaines d'églises qui ont été brûlées et des milliers et des milliers de prêtres et de religieux qui ont été soit exécutés, soit même assassinés au cours des jours. Donc une violence anti-religieuse très grande. Donc ça, c'est les deux faits historiques sur lesquels je voulais revenir. Alors, il faut faire des petites remarques par rapport à ces faits historiques. La première qu'on peut faire, c'est que le mouvement ouvrier, en particulier en France, mais c'est valable aussi en Espagne, dans un contexte très différent, a toujours été lié avec la petite bourgeoisie républicaine qui s'est développée après la Révolution française. Donc avec une petite bourgeoisie très violemment anti-religieuse, avec des points communs avec le libéralisme politique et le libéralisme économique, donc une petite bourgeoisie qui s'inspire idéologiquement des Lumières françaises, du rationalisme français, de l'anticléricalisme lié à Voltaire, etc. Hein. Voltaire qui disait il faut détruire l'infâme, hein. L'infâme c'était la... Puis il mettait les initiales, il finissait toutes ses lettres en disant il faut détruire l'infâme. Et il était violemment anti-religieux, mais ce même Voltaire, c'est celui qui disait, cette phrase théorique très importante, si Dieu n'existait pas, lui il pensait, il faudrait l'inventer. Et donc, face à ça, l'anarchisme va opposer une position très originale et très différente, qu'on peut résumer dans la phrase de Bakounine, que je rapporte, que je résume en gros, en l'améliorant un peu, bon, c'est une blague, en disant, où il dit, si par malheur Dieu existait, parce que pour Bakounine, ça serait une catastrophe, il faudrait s'en débarrasser. Voilà. Donc on va revenir sur le sens de cette phrase qui a l'air provocatrice, mais qui dit quelque chose de très important. Donc le mouvement ouvrier libertaire, le mouvement libertaire, il est en partie lié avec cette petite bourgeoisie anticléricale, et donc qui explique en partie dans cette alliance des formes d'anticléricalisme très violentes. C'est-à-dire qu'en Espagne, si vous regardez des images de la révolution de 1909, les églises sont brûlées, les cadavres des religieux sortis du tombeau, enfin des sacrilèges abominables. Mais la force qui fait ça, c'est un mouvement dirigé par un espèce de démagogue qui s'appelle Leroux, son prénom je ne sais plus, qui connaît bien la
classe. Non, c'est Leroux avec deux R en plus.
Il y a un X à la fin. Voilà. Et donc, il s'appelait les Nouveaux Barbares, qui ressemblait un peu à la guerre sociale d'avant 14, de Gustave Hervé, mais en plus nationaliste, catalan, etc. Et c'est eux qui sont violemment anticléricaux. Donc, ça serait une réserve à faire sur... Il y a alliance un peu entre les deux, mais il y a différence. Et le côté violent et anticlérical vient surtout de cette petite bourgeoisie très anti-religieuse. On avait un vieux copain à Lyon qui nous racontait comment dans son église, dans son village, dans sa commune des Gros-Bourgs, il arrive et il voit des mecs de la CNT, fraîchement adhérents de la CNT, qui brûlent des livres de messe. Et lui, qui est un militant de la CNT, qui a fait 3 ans de prison, qui en a bavé des ronds de chapeau, qui aurait pu mourir 36 fois, il se précipite pour sauver les livres. L'idée de brûler un livre, pour lui, c'est horrible. Livre de messe ou pas livre de messe. Oui, alors il disait, mais moi je les ai tous, j'ai la Bible, j'ai le Coran, donc les anars, c'est pas forcément les plus... Ils ont été pris dans un maelstrom. Voilà. La deuxième remarque que je voulais faire pour expliquer les deux faits historiques que j'ai donnés tout à l'heure, c'est que l'Espagne n'avait pas connu de révolution bourgeoise. Et donc l'Espagne, c'est comme la France au XVIIIe siècle, avec des nobles qui possèdent toute la terre, l'église, la moindre cure de curé est entretenue par la sueur des paysans du village et tout. C'est comme des fiefs. Donc, enfin bon, je ne veux pas rentrer dans le détail sur la civilisation espagnole que je ne connais pas très bien. Et donc la révolution prolétarienne de 1936, elle coïncide avec la révolution que nous, on avait connue en 1989 contre la grande aristocratie et l'Église. Donc la violence espagnole, il faut aussi la comparer autant à la violence de la Révolution française, et Dieu sait si ça a été violent, beaucoup plus qu'en Espagne, pour en comprendre comment. Oui, vas-y. Voilà, c'était mes deux remarques, les deux remarques historiques. Alors maintenant... Je vais en passer à des remarques théoriques et je voudrais dire quelque chose qui, moi, me paraît très important. C'est que pour l'anarchisme, et là, de nouveau, ça démarque l'anarchisme et de la petite bourgeoisie anticléricale et du marxisme, c'est que le propre de l'anarchie, des textes anarchistes, c'est de prendre très au sérieux la religion. De dire la religion, c'est pas... N'importe quoi, c'est quelque chose de très important qui, depuis des siècles, sert à l'humanité à penser son existence dans le monde. Et donc là, vous avez une différence très grande entre l'anarchisme et le marxisme et la petite bourgeoisie libérale. C'est que la petite bourgeoisie libérale, elle dit « la religion, c'est rien, ça disparaîtra ». La science, c'est des superstitions, et les superstitions, elles disparaissent. Elle s'efface et il y aura la rationalité positive de la science. Le marxisme, c'est encore plus net, ils vont dire la religion, c'est une superstructure, ça n'a aucune importance, tout se joue sur le terrain économique. Et donc, là aussi, se battre contre la religion, c'est se battre contre... C'est vouloir construire la maison par le haut, ça n'a aucune importance, la religion disparaîtra d'elle-même dans la logique de l'histoire. Il y a des points très communs entre les deux. L'anarchisme dit, au contraire, développe une analyse qui n'est absolument pas, qui est très éloignée du marxisme. Ils vont dire, la religion, c'est comme l'État. Parce que le marxisme dit la même chose de l'État. L'État, c'est une superstructure qui va disparaître d'elle-même quand il y aura des rapports économiques socialistes. On a vu comment, pour l'État, ça s'est vérifié. La religion, on attend. Il faut toujours expérimenter. Mais l'État, on a vu comment le marxisme a pris le pouvoir et a conquis la révolution russe, la révolution chinoise, et on a vu comment les anarchistes avaient raison, que l'État, ce n'était pas une superstructure mais que c'était un énorme appareil avec sa logique propre et une source de puissance et de domination avec une classe bureaucratique, etc. On pourrait discuter de ça. Donc sur la religion, c'est pareil. C'est-à-dire que l'anarchisme dit qu'il faut prendre le phénomène religieux au sérieux. Et ça, je vais faire une petite incidente. J'ai dit que je voulais faire de l'histoire et pas rentrer dans les détails concrets, mais ça explique certaines divergences qu'on peut voir dans la gauche et l'extrême gauche. À savoir que les militants qui ont une culture marxiste auront tendance à penser que la question religieuse, elle est secondaire. Et donc, ils vont s'allier éventuellement avec des mouvements très marqués par, ça a été le cas dans beaucoup de luttes anticoloniales, en considérant que le phénomène religieux est secondaire et que ce qui compte, c'est la situation de classe ou la situation d'opprimé par ailleurs. Et que si des idéologies religieuses permettent de mener cette lutte, soit nationale, mais on voit bien que la question de l'État ressurgit, là, forcément, le marxisme a toujours joué un peu... Bon. Pour l'anarchisme, c'est pas plus compliqué, mais c'est prendre la religion à la légère. Et c'est ne pas voir que l'imaginaire religieux et le rapport au monde religieux a des conséquences infrastructurelles, on pourrait dire, c'est-à-dire fondamentales dans ce qui peut produire, ce qu'une société peut produire et ce que les gens peuvent inventer et peuvent produire. C'est à peu près clair, non ? Donc, dans la manière de prendre très au sérieux la religion, il y a des raisons qui sont des raisons à la fois théoriques et qui sont celles que je viens de donner, c'est-à-dire que pour l'anarchisme, d'un point de vue anthropologique, la religion, c'est vraiment quelque chose d'archaïque et d'inscrit en nous, de très fort, de façon de voir le monde. Alors après, il faut rentrer dans le détail parce qu'il y a 36 sortes de religions et il ne faut pas tout mettre dans le même sac. Et que donc, il faut essayer d'analyser cette structure imaginaire si déterminante et si importante. Ça, c'est la première chose qu'on peut dire. La deuxième que l'on peut dire... oui, j'aurais dû prendre des notes, hein, mais j'avais pas de crayon. Donc, laquelle je viens de dire ? Élève, comment ?
Une structure imaginaire importante.
Oui, c'est une structure imaginaire importante. Et donc, ça veut dire que pour l'anarchisme, le phénomène religieux, il recouvre à la fois des choses positives et des choses négatives, dans la mesure où ça représente la société et le monde, et que la société et le monde a toujours vécu avec des rapports de domination, mais aussi des révoltes et des rapports d'émancipation. Donc dans la religion, l'anarchiste va avoir d'abord un regard où il va comprendre ce qui est positif dans l'histoire religieuse et les aspects qui peuvent être intéressants. Je laisse en suspens comment une chose peut-elle être bonne par certains aspects et mauvaise par d'autres. C'est un problème théorique de fond qui serait que le marxisme pose aussi et qu'il faudrait voir. Donc il y a des choses positives dans la religion et il peut y avoir des mouvements religieux, en particulier de révolte, qui préfigurent ou qui ont des caractères libertaires. Donc les exemples, c'est si vous prenez les mouvements en Angleterre, vous connaissez un peu Wesley, tous ces gens-là, ça donnera Cromwell, mais il y a une vraie révolte des paysans anglais, et leur révolte, elle prend forme dans le cadre du protestantisme radical, presbytérien ou autre. Les hussistes, la guerre des paysans en Allemagne, enfin on pourrait passer en revue un grand nombre de mouvements où il y a une affinité possible entre les aspirations libertaires et le phénomène religieux, même si le phénomène religieux finit toujours soit par se faire écraser. Enfin là, les anarchistes côté-là, ils n'ont rien de supérieur à eux, mais surtout d'être pris dans des représentations qui ne permettent pas d'envisager une société libérée, émancipée ou autre, contrairement à ce que nous, on pense. Enfin, bon, on peut nous contester cette affirmation. Donc, le lien, je peux en signaler un autre qui est très intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez le bouquin de Michael Lowy sur le judaïsme libertaire en Europe centrale. Rédemption et Utopie, où il montre bien comment il y a eu des rencontres entre le messianisme juif d'Europe centrale, qui se radicalise et qui se déreligieuse, je ne sais pas comment on pourrait dire, et l'idée de grève générale et l'idée de grand soir et l'anarcho-syndicalisme. Lowy, qui n'est pas anarchiste, mais il a été surréaliste, donc ça lui donne quelques petits...
Trotsky,
rien n'est parfait, mais bon. Et donc on peut envisager une rencontre qu'on pourrait résumer dans un point précis, c'est que la religion, un des aspects positifs, c'est que la religion, soit elle prend une allure très autoritaire, c'est la loi, l'Église, donc la loi religieuse, ou l'appareil comme en Iran ou l'Église catholique, la loi religieuse comme sont les communautés sunnites, soit elle prend cette forme-là, où le lien entre Dieu et les hommes passe par des intermédiaires, des prêtres, des interprétations, etc. Et dans toutes les religions, on trouve ce qu'on appelle des courants mystiques qui sont très liés à ces mouvements insurrectionnels dont j'ai parlé, qui consistent à dire « Dieu, je n'ai pas besoin de passer par des intermédiaires, je le vis directement ». Donc cette idée de vivre directement Dieu, c'est une idée que les anarchistes y comprennent tout de suite parce que Bakounine dit Dieu ou la nature, non c'est Spinoza, Dieu c'est-à-dire la nature, et Bakounine il fait une définition de la nature et il dit si vous voulez appeler ça Dieu, appelez-le Dieu, de toute façon ça n'a aucune importance le nom. Ce que je veux dire c'est qu'on est en lien direct avec la force du monde et qu'on passe pas par des intermédiaires et on subit pas une hiérarchie, une autorité qui vient d'en haut et qui pèse. Voilà la première chose positive. La deuxième chose positive que l'anarchiste reconnaîtra dans les religions, c'est dans la mythologie religieuse. La mythologie religieuse, elle est obligée de tenir compte de la réalité vécue humaine. Elle en laisse plein dehors, mais enfin, elle essaye d'intégrer le mieux. Et donc, dans la mythologie religieuse monothéiste, j'ai parlé du monothéisme, il faudrait parler de toutes les autres religions. On n'a pas le temps, là. Et donc... Dans le monothéisme, vous remarquerez qu'il y a une chose très bizarre, c'est qu'il y a Dieu, mais le monothéisme ne peut pas ne pas penser à un pôle opposé qui est le diable, Satan, Lucifer. Et donc, ça, l'anarchisme de Proudhon et de Bakounine, je vais vous lire un petit texte de Proudhon. L'anarchisme de Proudhon ou de Bakounine va se reconnaître, mais ce n'est pas de la plaisanterie. Le texte de Proudhon, il est à la fois humoristique, provocateur et théorique. J'essaierai de vous dire la fin est extrêmement théorique. Donc leur position, ce n'est pas uniquement la provocation ou se moquer, c'est de dire ce que dit la religion, il y a du vrai, il y a un roi, c'est Dieu, et puis il y a des serviteurs, les anges, les hommes, etc., Et dans ce système-là, même la religion, elle ne peut pas ne pas dire qu'on peut se révolter et que la révolte est possible. D'où cette référence à Dieu. Alors je vous lis un passage de... C'est pour nous détendre. Vous en avez marre, vous me dites. Hein, mais... Alors dans De la justice, le livre de Proudhon qui est immense, 4 volumes, c'est De la justice dans la Révolution et dans l'Église. Alors vous voyez, c'est déjà tout un programme. Et donc il a cette phrase extraordinaire, il dit « Viens Satan, viens le calomnier des prêtres et des rois, que je t'embrasse, que je te serre sur ma poitrine. Il y a longtemps que je te connais et tu me connais aussi. Tes œuvres, ô le béni de mon cœur, ne sont pas toujours belles et bonnes, mais elles seules donnent un sens à l'univers et l'empêchent d'être absurde. » Vous méditerez ça, mes très chers frères. Voilà, donc ça serait le deuxième aspect positif que l'anarchisme. Alors, l'aspect négatif, pourquoi se dire athée si violemment? Et si je devais conclure par ce point, j'ai essayé, parce que... Alors, la difficulté d'expliquer ça, c'est que là, on est au cœur de la théorie anarchiste, et c'est une théorie qui n'a rien de simpliste, et que donc... J'ai pris quelques notes pour... je ne veux pas vous ennuyer. Première idée de l'anarchisme, et vous verrez qu'après on comprend tout, normalement. Si. Première idée de l'anarchisme, la réalité, humaine ou non humaine, c'est le produit de la coopération et de l'association. Il n'existe rien sans que des atomes s'associent, sans que organiser les deux journées libertaires ici, vous ne vous rendez pas compte ce que ça représente.
Oh là.
Rien ne peut être produit si vous voulez construire une maison tout seul, mais vous aurez besoin d'un marteau, vous aurez besoin de... Voilà. Donc la coopération et l'association, elle est au fondement de ce qui est, et pas seulement des réalités humaines. Donc la société humaine, donc l'autre concept, deuxième idée, l'autre concept que va amener, que vont amener Proudhon, Bakounine, Élisée Reclus, etc., c'est le concept de résultante. Tout ce qui existe résulte de cette association et de cette coopération de force. Vous voyez, il n'y a que des résultantes qui sont composées d'autres entités, qui sont elles-mêmes la résultante composée d'autres entités. Voilà la thèse de Proudhon, de Bakounine, de Reclus.
Il y en a qui sont en retard.
Est-ce que vous avez bien compris cette... J'ai encore 5 minutes.
Mais vas-y, vas-y. Non, mais il n'y a pas de problème, Daniel. Tout va très bien.
Vous avez bien compris cette idée. Coopération. Donc, il y a la résultante qui résulte de tout ça. Cette résultante, voilà, il faut tout comprendre ça. Cette résultante, elle est toute guillerette. C'est-à-dire que vous, tant que votre foie et votre estomac va bien, vous dites, ah, je suis en forme aujourd'hui, je suis en forme. Allez, les cuisses, allez-y. Puis il suffit que les cuisses se dévissent, l'estomac n'est pas droit, et à ce moment-là, vous découvrez que le jeu se fragilise, votre amour s'en va, votre maison brûle, votre voiture, on vous l'a volée, et donc vous voyez que tout ce qui vous constituait part en morceaux et votre jeu devient évanescent. On dit, mais t'es toujours là, Fred, non, la chanson de Brel, tu vas couler sur le trottoir, non, vous n'avez pas vu. Bon. Bref, donc la résultante, elle est entièrement liée à toutes ces forces qui s'associent, mais la thèse anarchiste, c'est que cette résultante, elle va se retourner sur les forces qui la constituent et elle va croire et faire croire que c'est elle qui est à l'origine des forces qui la soutiennent. C'est pas clair, cette idée. Ça veut dire que vous allez tu vas louer, Ibtissem, tu vas louer un bateau à 10 rames, vous allez être 10 à ramer, et vous allez nommer quelqu'un qui va chanter une, deux, il sera à l'avant de la barque. Et il sera là, et vous le verrez, son corps va épouser le mouvement, parce qu'il faut être en concurrence avec une autre barque. Donc les deux barques sont comme ça, et vous dites, allez. Et au bout d'un moment, eh ben, les résultantes, les chefs de famille, les chefs d'entreprise, je prendrai l'exemple des chefs d'entreprise, c'est comme celui qui est à l'avant, il croit, il dit, allez, une, deux, attention à droite, vous n'êtes pas dans le rythme et tout ça, il va donner des consignes, éventuellement il va se nommer des sous-chefs pour surveiller si les rameurs rament bien et tout, et il va penser que le bateau, c'est un prolongement de son ego. Il a 10 femmes, 50 voitures, parce que les voitures, c'est plus important, et il a un château et tout ça. Et donc, vous voyez bien pourquoi les ouvriers, ils vont être spontanément anarchistes à la fin du 19e, en particulier proudhoniens. C'est que la grève, que Michel Perrault a analysée de manière si passionnante, la grève, c'est l'acte qui met le doigt sur le fait que le gros patron, c'est au 19e, c'est là maintenant ils font du sport, ils sont maigres, ils sont minces, mais à l'époque ils étaient très gros. C'est bon. Donc les gros patrons, ils ont un gros château, une épouse mince par contre, mais grâce. Voilà. Et donc le patron, il donne du travail, etc. Et ce que Michel Perrault montre, c'est que c'est un traumatisme théorique de découvrir que si les gens ne croient plus et se passent en dissidence, tout s'arrête. C'est ça la grève générale. On n'est pas compte, c'est une idée, on ne comprend pas maintenant, mais c'est cette idée qu'on peut tout arrêter. Et donc que les résultantes qui se prennent pour Dieu, et pour Dieu, voilà, c'est ça qu'on va arriver. Donc la thèse de puis j'aurai bientôt fini, la thèse de Proudhon, c'est que la force, alors les concepts, je ne vais pas vous les énoncer, mais il parle de force collective. Tout est force collective. Donc il va dire l'individu, vous voyez bien, l'illusion de l'individu. L'individu qui croit qu'il peut se faire refaire le nez ou qui peut s'implanter des trucs dans la tête pour penser plus vite, cet individu n'existe pas. Il est le produit de cette composition. Et si vous avez une plaque de fer dans la tête, elle va jouer un rôle de composition avec tout le reste que vous avez. Donc l'individu lui-même, c'est, Proudhon va dire, l'individu est un groupe. Ce qui est une idée passionnante, mais Proudhon, ça paraît bizarre, mais dites-vous bien qu'il y a plein d'autres auteurs qui développent, je pense à Simondon sur le pré-individuel, l'individu est un groupe et tout groupe est un individu, puisque tout groupe est une résultante. Et la résultante, elle se retourne sur ceux qui l'ont produit et elle s'approprie la théorie de la valeur chez Proudhon, elle diffère énormément de Marx. Marx la reprendra après avec la production collective. C'est que Proudhon, c'est une théorie de la valeur qui s'applique à toute chose. C'est que ce que vous produisez collectivement en vous associant, on vous le paye individuellement. Et la résultante garde le surplus dans sa poche. Donc Proudhon donne cet exemple. Ils avaient dressé la colonne Vendôme, non pas la Vendôme, l'obélisque. Ils dressent l'obélisque, c'est dans le premier livre de Qu'est-ce que la propriété. Et l'obélisque, donc il y a 60 personnes qui tirent sur des cordes, etc. Et puis, donc ils se sont fait enrôler. Il y avait un livre où on a marqué 1, Dupont, 2, Martin, etc. Ils ont tous leur liste. On dit, vous ferez une journée de travail. Ils font une journée de travail. Et le soir, ils sont repassés devant la guérite et on leur a donné leur argent. Proudhon, il dit, prenons au sérieux ce qu'ils disent. Le contrat était individuel, d'embauche, etc. Imaginons que les ouvriers travaillent comme ils ont été payés. Martin arrive, tire la corde, rien. Dubois arrive, tire la corde, rien. Qu'est-ce qui fait que l'obélisque s'est dressé ? C'est l'association des forces collectives. Et qu'est-ce que c'est que la valeur que garde le patron ? C'est ce produit-là, puisqu'il paye individuellement les ouvriers qui iront acheter du pain. Après, le collectif revient immédiatement. Donc cette théorie, il l'applique. Elle est valable pour l'ensemble de la société. Donc il va avoir cette formule. Ça va donner, sur le terrain économique, ça donne le capital. Le capital, c'est la manière dont le produit du travail est approprié par une force unique. Sur le terrain politique, ce sera l'État qui s'approprie la force collective, qui se fabrique une police. Après, ce n'est pas difficile, mais tout le monde sait que l'État, il suffit que tout le monde n'obéisse plus et l'État, ouvrez-moi les portes, les huissiers dans les ministères, il n'y a plus d'huissiers. Un ministre sans huissier qui ne sait pas où il a rangé ses chaussures, c'est un handicap, mais c'est un handicap moral, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il déprime complètement, parce que le monde l'abandonne autour de lui. Ça serait des sujets à discuter. Donc l'État et le capital, c'est la même logique, le capital n'a pas une position plus privilégiée par rapport à l'État. Et Dieu. Donc Dieu, pour Proudhon, c'est l'analogue du capital et de l'État, puisque Dieu, il va fonder imaginairement cette idée que la société, ce qui est premier, c'est l'un et le multiple. Alors on fait de la grande philosophie, c'est-à-dire que la représentation religieuse, si vous êtes révolutionnaire un jour, si vous gardez, mais si vous êtes repris par des représentations religieuses, tôt ou tard, vous allez prendre position dans les enjeux de tous les jours sur un modèle autoritaire. Dieu, c'est la clé de voûte de l'autorité, c'est cette idée que, au départ, il y a quelqu'un qui agit. Et moi, je ne voudrais pas critiquer mes camarades libertaires, mais ce schéma, il est présent dans le milieu libertaire. Quand on s'engueule en disant « mais il ne fallait pas que tu fasses ça », l'autre, il va dire « mais je me dormais à ce moment-là », je ne sais pas, il va dire « j'ai pas pensé », je ne sais pas quoi. On est dans un monde où on dit aux gens « il faut savoir ce que tu fais, etc. » Les circonstances atténuantes, donc vous tuez toute votre famille, par exemple, vous êtes responsable, même si vous êtes complètement fou. Enfin non, si vous êtes complètement fou, là, on vous met dans un asile. Et vous tuez toute votre famille, après, on cherchera des circonstances atténuantes. Les circonstances atténuantes, c'est ce que l'anarchiste pense être le réel. C'est-à-dire que le réel, c'est qu'il y a des choses qui s'agencent bien, puis qui s'agencent mal. Comment agencer les choses bien ? Comment se fédérer de manière à ce que ça soit productif et ne pas se réunir pour dire t'as tort, t'as raison, ou je sais pas quoi. Mais là, je commence à me perdre. Oui, moi aussi d'ailleurs. Donc j'arrête.
Non, mais quand on fait une action, spontanée comme ça, on nous dit, par exemple, en chef, on ne dit pas, tu as tort, tu as ceci, tu as cela. C'est quand on agit, quand on agit qu'on veut un résultat, il n'y a plus de dissension, à mon avis, à mon sens. C'est pour ça que je trouve que, à notre époque, le défaut qu'on a, c'est de trop parler, de trop théoriser. C'est là qu'on commence à ne pas se comprendre. Mais on ne se comprend pas parce que ce n'est pas matériel. On n'est pas en prise avec la matière, avec le matériel. Vous comprenez ce que je veux dire ?
Absolument. Ouais, ça veut dire que si on pense que le sujet révolutionnaire, par exemple, ou le sujet de l'action, il tient beaucoup aux circonstances, on voit bien comment l'expérience montre comment on décide quelque chose quand, dans une situation où de grève, je ne sais pas, vous faites allusion à ça, je ne sais pas, non ? Qu'est-ce qui est possible, cette question, qu'est-ce qui est possible ?
C'était sur ce que vous disiez que vous retrouviez, et c'était stérile de se réunir pour dire à l'un à l'autre...
Se culpabiliser, t'as tort, ouais.
Mais oui, ouais, mais sur un chantier, vous n'allez pas le faire avant qu'il y ait un qui fasse une connerie énorme et que l'autre se fasse engueuler par quelqu'un. Mais ça, encore, c'est l'esprit. Je trouve qu'actuellement, on parle trop, on n'est pas assez aux prises avec les choses. C'est pour ça que moi, je suis plus branchée maintenant. Bon, là, j'achète des livres, je vais à des conférences, mais je trouve que ceux qui montent un éco-habitat ou ceux qui montent une communauté agricole, je ne sais pas où, c'est eux qui sont dans la réalité, c'est eux qui sont dans le... Vous comprenez ce que je
veux dire ? Oui, je comprends.
Et là, on ne peut plus théoriser, on est trop pris avec du matériel. On peut aménager les choses en fonction des circonstances, en fonction des...
Non, simplement, j'aurais tendance à dire, par rapport à ce que j'ai dit avant, que même quand on ne théorise pas, on parle quand même, ou on comprend une situation. Et que dans la manière de comprendre la situation, se jouent des choses très importantes. Et que, par exemple, le mouvement libertaire, s'il expérimentait une manière de vivre les situations, de les régler, de les réguler d'une certaine façon, ça développe... Alors, non, c'est pas clair ce que je veux dire. C'est quand on utilise des schémas quand on va dire. Pardon,
tu veux que je m'arrête ? Non, vas-y, vas-y. Non,
on pose d'autres questions. Quand vous êtes habitué à ce qu'il y a un chef, s'il y a un conflit, j'exagère beaucoup, vous allez dire bon, on va prévenir le chef, je vais faire une feuille, une note pour que ça monte dans la hiérarchie. Alors qu'il y a d'autres manières de réguler, il y a l'expérience qui permet de réguler les. Non, c'est pas clair du tout.
Non, mais quand on est entre les mains d'une tierce personne, c'est ça que tu veux dire, plutôt prendre en charge ses propres problèmes.
Eh bien, c'est d'avoir une intelligence pratique, le sens pratique dont parlait Bourdieu. Le sens pratique, c'est qu'est-ce qui est en train de se passer. Et donc, par exemple, c'est là où la pratique libertaire devrait développer, sentir qu'à un moment donné, ça ne va pas faire avec l'autre, il est très bien et tout ça, mais ça ne va pas faire de m'associer à lui. Donc, s'en aller. Avant de se foutre sur la gueule, c'est ça le sens pratique. C'est qu'est-ce qui est possible. Par exemple, moi je suis à la griffe. Qu'est-ce qui est possible à la griffe? À quelles conditions? Comment? Et donc il y a une espèce de sens pratique, mais qui à ce moment-là mobilise, ce que je voulais vous répondre, c'est ça mobilise des schémas intellectuels. Ça mobilise des...
Peut-être il y a d'autres questions. Oui, c'est... Enfin, si... Voilà, on parle plus de Dieu, là Dieu a disparu.
Mais il est partout. Dieu, il est toujours là. Je vais le dire à ton père. Le père en question, c'est le père tout puissant.
Est-ce que vous auriez une question à poser ?
Oui. Je voulais savoir qu'est-ce que les anarchistes pensent des mouvements des musulmans en Syrie, en Irak ?
Ben donc je ne vais pas parler pour les anarchistes. Eh bien, on voit bien... Non, mais je ne veux pas me lancer dans une analyse des réactions libertaires. On voit bien que les libertaires, récemment, et ça va produire des discussions, ils ont rien dit sur les extrémistes musulmans, les djihadistes. Là, ils disent rien. Mais qui dit rien consent pas, au contraire, est violemment contre. Par contre, dès qu'ils ont vu qu'un mouvement cousin si éloigné, le PKK, qui est, mais tout le monde finit par connaître des Kurdes en France ou ailleurs, mais le PKK, apparemment, il a évolué beaucoup. Mais le fait même de voir des images où il y a des filles avec des mitraillettes et qui sont cheveux nu-tête, les anars, ils ont eu tendance à soutenir ça, peut-être en se trompant. Mais parce qu'ils ont vu, parce qu'on fait confiance aussi, hein, quitte à se tromper, on a vu que les anars turcs soutenaient. Donc du coup notre cœur, il y a des fois, on ne peut pas bien... Mais sinon, sur le fond de la question, je peux répondre à titre individuel. C'est-à-dire que...
La religion musulmane pour tuer, pour massacrer.
Alors, le seul mot que je récuserai par rapport à ce que j'ai dit avant, c'est utilise. Parce qu'en fait, je pense qu'on n'utilise jamais rien, que toute chose a sa propre raison d'être et qu'elle se. Mais moi, par rapport à ce que je pense, c'est que le réel. On a vu que c'était des forces qui se composaient entre elles pour donner une résultante. Donc, y compris la religion, ce qu'on appelle la religion, peut se combiner de multiples manières. Et effectivement, dans le côté international, il y a des aspects qu'on pourrait considérer comme positifs, mais qui sont pris dans un agencement général, qui est un agencement de mort et mortifère. Voilà, donc... Et autoritaire, c'est-à-dire que le droit de vie ou de mort dépend de la façon dont on de Dieu, dépend de Dieu, même si c'est un Dieu subjectif, partiel, pour nous, c'est... Enfin, je ne vois pas un seul anarchiste qui pourrait admettre... C'est vrai que nous, on est... Enfin, on n'est pas vacciné, pas du tout. Mais enfin, un des points essentiels, cet athéisme dont je parlais, c'est l'idée même de Dieu, d'un Dieu unique. Alors ça laisse la place peut-être à... Mais d'un Dieu le Père, Dieu créateur, Dieu... C'est une idée, donc je rappelle la phrase de Bakounine qui donne « Si Dieu par malheur existait, il faudrait s'en débarrasser ». Donc on est vraiment... Si on parle en termes de Dieu, moi je ne crois pas en Dieu, donc le mot pour moi n'a pas beaucoup de sens, mais si on parle de Dieu, si on parle des effets de ce mot, on est forcément du côté de Lucifer. Lucifer... Et même les mots, rendez compte, Lucifer, ça veut dire la lumière. Hein. C'est-à-dire que même la religion, l'arbre, vous savez, Adam et Ève et tout ça, et ben, c'est l'arbre de la science et...
Le savoir.
Le savoir et la science. C'est-à-dire que même la religion, elle dit ce que nous on dit. On dit que la révolte contre Dieu, c'est là où est la lumière, l'intelligence. La religion dit, vous êtes d'accord quand même. C'est pas moi qui l'invente. Hein. L'interprétation de...
Tu peux parler un petit peu plus.
Une interprétation comme ça, on peut se trancher
la
gorge. Oui. Ah, ben ça... Donc je dis pas que je vais être anarchiste tout le temps. Mais enfin, tant que je peux l'être... Non, mais il faut pas non plus être plus royaliste que le roi. Enfin non, je suis pas royaliste. Non.
Madame ?
Oui, vous parlez des religions monothéistes, je suis tout à fait d'accord. Hein. Mais les religions polythéistes comme l'hindouisme, par exemple, exactement, donc peut-être même s'il y a plusieurs dieux, il y a tout un panthéon de...
Ça va être terrible aussi.
Terrible. Il y a Ganesh, il y a Kali, il y a enfin, tout ça, quoi, je suis en train de dire, justement. Un de leurs livres, là, il est là. Et c'est très violent. C'est très violent. C'est pas parce qu'il y a un seul dieu qui n'est pas un seul dieu unique que c'est pas. C'est très, très violent. L'hindouisme, la religion hindoue, a été utilisée par un parti fascisant qui a le pouvoir, enfin, qui a pas mal.
Ils ont la présidente de la République, hein, c'est le président du BJPE.
Et c'est des gens qui sont sur une base de monétarisme technique et tout ce qui n'est pas hindou est pur hindou, hein, donc la pureté de la place, la pureté de la race, la pureté du sang, hindou, tout ce qui est musulman ou qui est chrétien, voilà, c'est, ils ont été à la tête d'ailleurs, à l'origine de plusieurs massacres. Et en plus, l'hindouisme, il y a aussi des coutumes, par exemple, de brûler les veuves sur un bûcher, toutes ces coutumes-là, quoi. Mmh. Donc, moi, je pense, c'est mon opinion, que toutes les religions sont mortifères, toutes les religions, quelles qu'elles soient. Parce que le fait de penser qu'il y a quelqu'un au-dessus, que ce soit quelqu'un, que ce soit plusieurs du haut-dessus, qui vous disent c'est bien ou c'est mal, non. Il y a quand même le respect de l'être humain, il y a quand même le respect de l'environnement, il y a quand même le respect des gens qui sont autour, quoi. Et c'est vrai que le fait de dire ni Dieu ni maître, hein, c'est quand même quelque chose qui, pour moi, parle. Okay. Toutes les religions, pour moi, sont à mettre avec des degrés différents, bien sûr. Hein, sur plus ou moins, selon les époques, sont à mettre fondamentalement sur le même plan, c'est-à-dire des instruments idéologiques d'oppression. Mmh. Et je sais parce que j'ai fait la faculté de théologie, je serais assez pour ça.
J'ai oublié de parler de ni Dieu ni maître, mais c'est vrai que ça résume tout. On peut aller chercher à 14h.
Daniel, tout à l'heure, tu as fait une différence entre la religion, la démarche croyante d'un seul Dieu avec intermédiaire, pour le génomiste, des appareils,
des appareils. Ouais,
ouais. Tu as ouvert les portes en disant qu'il y a aussi une démarche plus directe entre Dieu et l'homme, sans intermédiaire. Tu as parlé de ça, donc tu as
défendu
le mysticisme.
Le mystique.
Est-ce qu'on peut aujourd'hui envisager, plutôt dans les pays,
dans ma démarche à moi.
Après, chacun peut voir son avis là-dessus. Moi, je l'ai. Mm. En partie, parce que je n'ai pas toutes les réponses, mais est-ce qu'on peut envisager aujourd'hui,
c'est un mouvement qui prend des plus grandes, notamment Jordanie, au Liban, en Syrie, en Palestine, au Machat
également. Voilà. Ben, moi ce que je pense, c'est que le côté le plus fascisant de l'islam, il est plutôt du côté du rigorisme de la loi, de la lettre. Et donc, historiquement, enfin, j'ai un peu étudié de deuxième main tout ça. Mais c'est vrai que moi, par exemple, j'ai beaucoup d'espérance. J'espère que d'espérance dans l'Iran, la Turquie, dans des régions. Parce que le chiisme, le chiisme a des aspects aussi légaliste aussi, mais dans le chiisme, il y a le problème de la mystique, c'est que ça a des liens avec la folie quand même, donc ça peut pas être complètement mauvais, forcément. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que si c'est vrai que la position libertaire qui consiste à dire Dieu ou la nature, Dieu c'est la nature, les positions, on n'en a pas parlé, mais les positions monadologiques liées à la manière dont Proudhon va lire Leibniz, etc., sur le fait que chaque individu il porte la totalité de ce qui est en lui et qui peut être en rapport direct, on va voir l'aspect pratique. Si vous dites que je suis en rapport direct avec Dieu, Saint François d'Assise, ils l'ont mis en prison. Saint François d'Assise, ils l'ont fait taire, ils l'ont fait... Parce que, c'est des fous, bon, c'est un peu fou, mais la mystique, c'est éventuellement d'être en rapport... on a tous éprouvé ça. Tous les jours, on se lève le matin, on est dans des rôles, des fonctions, on est complètement soumis à l'appareil social. Et puis, de temps en temps, quand on dit, il y a l'amour, il y a quelques moments comme ça, quand on dit qu'on se laisse aller à soi-même, on a l'impression que les jeunes, ils sont comme ça, la tête va éclater. On se dit, ah, mais je pourrais faire ça, ou je sais pas quoi. Et donc, si vous l'appelez ça, si vous l'appelez Dieu, ce qui est sûr, c'est que les mystiques, ils ont tendance ils ont tendance à foutre en l'air tout ce que les religions ont construit passivement. Je signale qu'il y a une secte musulmane, chiite, qui disait qu'il faut brûler le Coran. C'est-à-dire qu'ils en arrivaient à dire... C'était une espèce d'esprit logique, parce que dans le chiisme, la révélation, on va dire, de la force du monde, de la nature, puisqu'on n'est pas croyant, on n'entre pas au Canpa, on l'obtient par une révélation qui est forcément pauvre. C'est-à-dire que vous voyez bien que le Coran, c'est Heidegger qui dit ça. Ou non, dans la théologie musulmane, j'ai oublié les deux concepts, ce qui révèle masque. C'est comme quand vous écrivez à quelqu'un pour lui dire que vous l'aimez, vous ajoutez à la fin, mes mots n'arrivent pas à dire tout ce que je sens, mais c'est très juste. Hein. Et donc, ce qui révèle, donc le Coran révèle quelque chose d'immense. Alors après, la question de savoir quoi ce que ça révèle, mais déjà que ça soit plus 10 règlements où tu te mettras à genoux tel jour, je sais pas, c'est déjà un progrès. Donc, le Coran, après, il va cacher, parce que le Coran, on va s'attacher à la lettre, on va faire des belles enluminures, on va... Et la Bible, c'est pareil, je prends l'exemple du Coran, mais la Bible, c'est pareil. Et donc, une fois qu'on sait, si quelqu'un tombe amoureux de vous et vous envoie une lettre, l'idée de l'amour, c'est que vous allez la déchirer pour garder le... Et si vous vous mettez à adorer la lettre, vous voyez, vous fondez un culte dans les gens.
Arrivé en retard, comme tu l'as remarqué, parce que la question a déjà été posée, vous voulez savoir. Donc, tu parlais tout à l'heure avec la situation au Kurdistan, à Kobané, etc., de rapport au PKK, effectivement, face à un mouvement avec des pratiques
totalitaires.
Peut-être même nos divergences politiques dans la poche, c'est-à-dire qu'il faut faire un mouvement, entre guillemets, sacré pour soutenir. Je pense que ça me renvoie à d'autres choses sur des luttes plutôt. Des fois, on va se retrouver à avoir un socle commun avec des religieux, que ce soit des capots de gauche, des mouvements progressistes ou des choses comme ça. Parce que sur une lutte, on peut avoir les mêmes points de vue. Alors, toi, par rapport à ces situations-là, est-ce que tu penses qu'il faut être un bouffe-curé total et jamais allié avec n'importe quel imam, n'importe quel curé, fut-il n'importe quel rabbin, fut-il intelligent? Ou est-ce qu'au contraire, il faut explorer les zones communes qu'on peut avoir dans les luttes avec ces gens-là pour faire évoluer un peu les positions?
Oui, on en a parlé un peu au début.
C'est une question importante.
C'est effectivement ce que j'ai essayé d'expliquer, mais c'est dur, on retombe sur les schémas habituels, c'est que l'athéisme anarchiste... C'est pas l'anticléricalisme républicain, c'est pas du tout ça. Donc il y a une espèce de... En plus, tout ce que j'ai dit, les passerelles, elles sont réelles. C'est-à-dire que quand les anards disent le diable, même avec un croyant, si vous lui dites, mais t'as bien réfléchi, le diable, finalement, qu'est-ce qu'il y a? Parce que si on creuse quand même le diable, le moteur, Lucifer, le moteur de son action, c'est bien la révolte, quand on n'en voit pas d'autres. Ou la jalousie, enfin bon. Pas vraiment. Donc, si c'est pas l'anticléricalisme, le mouvement ouvrier est un bon exemple de ça. Hein. Saint-Étienne, vous aviez les amicales laïques, qui étaient vraiment anticléricales et qui associaient les ouvriers et les petits patrons, la gauche républicaine. Mais vous aviez la Bourse du Travail, qui, elle, était horizontale et qui n'admettait pas les petits patrons. Mais par contre, quand il y a eu des syndicats chrétiens qui se sont montés, ils les ont admis. Parce qu'en fait, l'unité ouvrière, donc ça peut donner une alliance comme ça. Simplement, il ne faut pas que nous, on se transforme. On a parlé des cathos de gauche. Les cathos de gauche, ils avaient un côté énervant quand même, qui vient de... C'est d'être prêt, on leur faisait avaler autant de grenouilles qu'on voulait. Enfin, c'est les cathos de gauche, ils sont trop gentils, on a envie de les battre des fois. Il ne faudrait pas qu'on devienne des anards de gauche, voilà. C'est-à-dire que moi, je veux bien faire des trucs avec des gens qui agissent. Avec des gens qui agissent, mais à condition qu'il n'y ait pas une pression collective pour me dire mais tu es islamophobe ou je sais pas quoi. C'est-à-dire que je veux bien m'associer avec d'autres sur quelques. Je suis convaincu qu'il y a des situations qui traversent et qui transgressent toutes les situations acquises. Donc, ce que vous avez dit tout à l'heure, quand on s'associe dans une action. Mais à condition que dans cette action, voilà, on ne soit pas obligé. Pardon.
Ça va un peu dans le sens de ce qui vient d'être dit, moi, ce que j'ai retenu de ce que tu dis. Donc, en gros, trois choses, capital, État, Dieu. Bon, en France, en Europe occidentale, on va dire, les libertaires, les anarchistes, je ne sais pas comment les appeler, sont tout à fait d'accord pour combattre le capital, pour combattre l'État. Je crois que là-dessus, il y a consensus. Et Dieu, enfin bon, oui, non, mais pour faire simple, bon, et Dieu, alors on le combat, on ne combat pas, enfin voilà. Bon, je titille un peu, là, mais...
Non, mais nous, on est un peu les anarchistes en Europe, ils sont un peu coincés, parce que c'est pour ça que nous, on attend qu'est-ce qui va naître de l'anarchisme en pays musulman, tu vois, c'est ça la question, c'est-à-dire comment ils vont arriver à... Donc c'est vrai que nous, on est handicapés par le fait que c'est plus facile de dénoncer sa propre religion dès qu'on dénonce. Parce que quelqu'un a dit, on parlait tout à l'heure de l'Inde. Oui, on parlait de l'Inde. On voit bien que la situation de l'Inde, elle devient terrible le jour où vous avez de la concurrence entre les communautés. Parce que tant que les hindous, ils vivaient dans leur vallée, le problème, c'est quand ils ont commencé à rencontrer l'Empire Mogol ou je ne sais pas quoi. Et donc, l'intolérance religieuse, en fait, elle a déjà été relayée tout de suite par une intolérance identitaire communautaire, de groupe.
Il y avait après René Pierre, puis après toi.
Non, mais les raisons de s'assassiner, de toute façon, on n'en manque pas. Il suffit de faire un petit effort.
Oui, il me semble que chez Bakounine, et déjà chez Godwin d'ailleurs, précédemment, il y a l'idée que... Bon, que d'abord on peut comprendre l'aspiration religieuse, que c'est quelque chose qu'on peut avoir de commun avec tout le monde, avec ceux qui la possèdent, tout en étant athée. Enfin, personnellement, je suis athée, et Bakounine aussi, comme tu l'as montré. Mais dans un monde où il n'y a que le désespoir le possible, ou le désespoir au sens de manque d'espoir, enfin pas forcément de se suicider, mais enfin bref, que les gens, qu'on ait tous le désir d'autre chose, c'est quelque chose qu'on peut comprendre. Alors, au-delà, effectivement, l'idée d'un Dieu unique ou pas unique, effectivement, ça me semble quelque chose qui ne colle pas avec l'anarchisme. Mais on ne peut pas nier non plus qu'il y a eu des courants anarchistes chrétiens, enfin, comme aux États-Unis, il y avait The Catholic Worker qui était anarchiste chrétien. Et j'ai entendu dire, je ne sais plus si c'est en Tunisie ou en Égypte, qu'à un moment, il y avait des gens qui se baladaient avec un drapeau anarchiste musulman. Enfin, donc pourquoi pas, enfin, mais pourquoi pas, effectivement. Et d'une certaine manière, il est parfois plus facile de collaborer effectivement sur des problèmes concrets avec des catholiques qu'avec des communistes, voire avec d'autres anarchistes. Enfin, certaines fois,
avec les anarchistes, c'est le plus dur, je crois.
C'est le plus dur. Oui. Et oui, enfin,
c'est une blague entre nous.
c'est pas important, mais Godwin disait aussi Dieu, c'est le diable, et le diable, c'est Dieu.
Daniel, tu veux dire quelque chose?
Non,
c'est bon, voilà.
Peut-être bon, juste oui, par rapport aux Kurdes. Enfin, c'est vrai qu'au départ, le PKK était un mouvement
léninien,
etc. Mais que sous l'inspiration de son leader Öcalan, qui est emprisonné de je ne sais plus combien d'années, et qui a pris contact avec Murray Bookchin, enfin c'est plutôt Murray Bookchin qui a pris contact avec lui, il s'est d'une certaine manière, enfin déjà il a préconisé le cessez-le-feu en Turquie et l'instauration de communautés dont on peut dire qu'elles sont quasiment libertaires. Alors forcément ça ne marche pas toujours impeccable, quoi. Et il semble, d'après ce qu'on peut savoir, mais on n'y est pas, bien sûr, que, effectivement, en Syrie, ce soit un peu ce qui se soit construit dans des communautés où, peu importe que les gens soient sunnites, chrétiens, yazidis, ou quoi que ce soit, bon, ils s'unissent soit par quartier, soit comme par communauté, mais lorsqu'il s'agit de prendre une décision commune, eh bien, on en discute ensemble. Quant à la religion des Kurdes eux-mêmes, d'après ce que j'ai pu lire dans les brochures de Chalan, je ne sais pas.
Mais c'est le PKK, c'est un parti laïque.
C'est un parti laïque, mais qui était plutôt stalinien.
Oui, c'est une autre forme de religion.
J'ai quand même des doutes, effectivement, tous les membres du PKK, ils ne vont pas changer d'un coup, quoi. Et en plus, en Syrie, en fin de l'année, c'est la guerre. Donc, comme en Espagne, pendant la guerre, les anarchistes, ils n'étaient pas tels qu'on aurait aimé les imaginer, je pense que là-bas non plus, ce n'est pas forcément parfait.
On est Pierre. Oui,
effectivement, on avait beaucoup de prévention par rapport au Pékin, mais actuellement, moi personnellement, je vais dire moi d'ailleurs, parce que les anarchistes, je trouve qu'il y a beaucoup d'Amaliens qui ne pensent pas tous la même chose, et on ne peut pas dire les anarchistes. Bon. Il y a quelque chose qui se passe dans le Kurdistan, la Rojava, le Kurdistan syrien. Et c'est très intéressant. Et ce n'est pas uniquement parce que c'est vrai, il y a toutes les religions, il y a les Kurdes, il y a les pas Kurdes, mais il y a aussi une place qui est faite à la femme. Je veux dire, enfin à la femme, je ne veux pas mettre cette expression, mais aux femmes. Quand il y a une assemblée, il y a toujours un président homme et un président femme. L'assemblée ne se tient pas s'il n'y a pas un quorum de 40% de femmes. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Mmh. Moi, j'ai envie qu'il continue cette expérience. Mmh. Je prends que c'était pas là-dessus que je voulais intervenir. Mais c'est pas uniquement des images folkloriques de jeunes femmes en armes. C'est vrai que c'est aussi réjouissant, comme c'était réjouissant il y a 40 ans du côté de... C'était dans la péninsule arabique aussi. Mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. Mais quand on pense qu'à Kobané, le commandant, c'est une commandante, dans l'environnement où se trouve la Rojava, c'est quand même surprenant.
Non, c'est presque. C'est presque. On se dit, c'est louche.
C'est miraculeux.
Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Hein,
donc, si on. On ne sait pas ce que ça va devenir. Hein. Mm. Ça va peut-être complètement sombrer. Mais pour l'instant, il y a des choses qui m'intéressent. Mm. C'était pas dessus que je voulais intervenir. Oui, c'était sûr. Dans une lutte, pour moi, ce qui est important, c'est de trouver ce qui nous rassemble pour pouvoir agir ensemble. Et pendant la guerre d'Algérie, pour passer des valises, on ne cherchait pas à savoir si c'était un communiste libertaire ou un chrétien de gauche. Après, agir ensemble, ça fait qu'il y a des choses qui bougent, et il y a des choses dont on peut poser et qui peuvent évoluer. Sinon, ça bouge pas.
Ma remarque,
donc,
pour vous, je pense qu'elle sera un petit peu plus dans le sujet entre anarchisme et religion, et que ça répond aussi à la question que tu posais tout à l'heure. Donc on va le tard, on va le capital, et Dieu, est-ce qu'il doit combattre? Et moi, la remarque que j'aimerais faire, c'est ce que j'ai pu constater en discutant avec des camarades de l'autre côté de la Méditerranée, plusieurs pays confondus, c'est qu'il me semble qu'il y a une position qui me paraît très intéressante dans le rapport de l'anarchisme à Dieu et à la religion. C'est que dans le courant anarcho-mystique, qui semble se développer de plus en plus dans les pays dits arabes musulmans, c'est qu'on se rend compte que le Dieu extérieur à l'humanité, extérieur à soi-même, apparaît évidemment comme une entité à combattre. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, on est tous en accord de tous à dire ça. Mais leur position, et là où elle me paraît intéressante, c'est qu'ils font de leur propre position. Ils se disent, ok, nous, on combat le Dieu que l'on considère être, et auquel on ne croit pas, extérieur à nous-mêmes, extérieur à l'humanité. Mais on se conçoit nous-mêmes, enfin, on est nous-mêmes. Le propre acteur de notre vie, et on se veut nous-mêmes être le propre Dieu de notre vie. Et leur position nous paraît être...
Ah oui, alors moi je vais te dire que je pense que c'est génial. Et moi je suis complètement d'accord. Et donc je pensais à un grand mystique, mais j'ai perdu son nom depuis très longtemps, qui était donc vers le XIIIe siècle, un mystique musulman, qui était tellement, il vit une expérience personnelle d'explosion. Je ne sais pas comment.
Il s'est crucifié ?
Non, il ne s'est pas crucifié. Oui, non, il est sorti tout nu dehors en criant « Je suis Dieu, je suis Dieu ». Oui, et l'ombre.
C'est pour ça, d'ailleurs.
Et voilà. Et à mon avis, c'est pour ça qu'ils ont raison. Mais alors, évidemment, donc, tout ce que j'ai pu dire tout à l'heure, c'est absolument pas en contradiction. Avec, au contraire, développer ça. Mais on voit bien comment le soufisme... comment tous les tendances mystiques qui sont très sclérosées, comme le taoïsme chinois ou je ne sais pas quoi, mais comment tout ça est combattu par une espèce de juridisme, une pauvreté comportementaliste. Hein,
Il y a évidemment une différence importante. Et quelle différence, justement, entre le mec qui dit « je suis Dieu » et le calife.
Ah bah arrête. Oh. Surtout toi, Alain, ça veut dire qu'en sortant je suis Dieu, c'est qu'on parle à Jésus-Christ éventuellement, mais pas.
Je suis mon propre maître. Et ouais.
Je suis Dieu, mais tu l'as le nom du. Tu cites des textes, hein, ça m'intéresse vraiment les textes. Parce que c'est ça qu'il faut creuser, parce que même le. Ouais. Et la philosophie et la théologie musulmane, sur une histoire aussi longue, elle permet de penser ça. C'est qu'il y a des tas de courants qui pensent le rapport à Dieu. Alors c'est vrai que c'est lié dans le chiisme, aux l'imam caché, mais même dans le sunnisme. Ouais. Donc, les anars. On attend des textes.
Tu pourrais, avant que quelques questions à poser, tu pourrais développer un peu, tu as des informations
Je ne sais pas quelle information, on pourrait me poser des questions, mais en tout cas, moi, quand j'ai appris ça, j'étais assez émerveillée, parce que c'est pas qu'un changement sociétal, c'est pas qu'un changement social extérieur, c'est vraiment, c'est là où je trouve cette évolution judicieuse et perspicace. C'est un changement de perception, un changement en soi. Et il me semble que, comme dirait Tolstoï, le changement, c'est l'amour en soi qui s'opère.
Alors là, il y a un autre problème.
Oui, mais c'est un
argent.
Elle lie absolument à une croyance à le fait d'être de se conduire en humain. On peut être humain avec des valeurs sans se rapprocher à une croyance.
Non, mais.
Si les gens décident de croire, on ne va pas non plus l'assassiner parce qu'on ne sait plus croire. Oui, la vision n'est pas tellement de
part. Non, mais vous disiez que c'était presque comme un avenir radieux.
C'est l'évolution.
Mais quelle évolution? C'est pas une évolution.
C'est là-dedans, là.
C'est pas une évolution du tout.
Est-ce que tu veux répondre, Daniel? Après, il y a deux autres questions.
Non, parce que je voulais dire très rapidement, j'en profite de la place. Moi j'ai tendance à penser. Alors, il faudrait. Je réponds pas à la question pourquoi je me réjouis tant. Ce serait trop long. Mais par contre, sur la croyance, effectivement, quand des anars européens ont été voir à Tunis, les anars tunisiens, ils sont arrivés dans les textes, par exemple, pourquoi je suis athée, les 12 preuves de l'inexistence de Dieu, moi, ça ne me convient absolument pas. C'est d'un rationalisme étroit où on vous prouve par la logique que Dieu existe ou pas. Mais c'est aussi. Donc, moi, j'ai plutôt tendance à penser que pour se lever le matin, il faut un minimum de croyance, quoi, sinon on ne se lèverait pas, on resterait. Oui, mais la croyance, c'est quand brusquement, à la faculté où je travaillais, les étudiants se mettent à bloquer les portes, moi j'éprouve un moment de bonheur, c'est mystique, quoi, voilà, c'est un moment de. Donc ça veut dire qu'après, on creuse le fondement de ce qui fait vivre les êtres humains. Or, si ça a été la religion, elle a véhiculé, ils ont vécu les êtres humains, la mort. Moi, je pense que la religion est très mortifère. Si elle était que mortifère, mais peut-être parce qu'ils n'étaient pas croyants, parce qu'ils ne croyaient pas au Dieu.
Ouais, attends, alors, y a madame.
Non, mais d'accord, c'est un problème de. Oui.
Pardon. J'ai beaucoup de mal à vous suivre tous parce que je voudrais que quelqu'un me définisse ce que vous entendez par Dieu. Voilà.
Ah, une question à 100 balles, Daniel?
Eh bien, c'est une illusion. Un mot illusoire. Pas illusoire.
Selon les personnes, parce que moi, je comprends aussi le Dieu, parce que moi, Dieu, pour moi, c'est quelque chose qui est en dehors du rêve, voilà. Et en fait, moi, même si j'ai des moments de joie et de joie et de ça, c'est pas en dehors du rêve, c'est mon réel, et c'est quelque chose de concret, donc j'ai un peu du mal à suivre.
Et puis l'anthropologie, excusez-moi, mais l'anthropologie a mis à mal cette idée de Dieu. Ça n'existe pas, l'anthropologie de Dieu.
Attends, Myriam.
Je voudrais essayer de dire quelque chose par rapport à ça. L'anthropologie aussi ne dit pas forcément qu'il y a quelque chose de... Enfin, ne dit pas du tout qu'il y a quelque chose de bien à croire et quelque chose à ne pas croire.
Absolument.
En fait, vous dites, j'ai pas de croyance, mais sans le savoir, vous en avez.
Non.
Et non, en fait, bah, si, parce que vous avez dit l'amour, l'amitié, par exemple, et vous mettez...
C'est une croyance.
Si, vous croyez en l'amour, vous croyez en l'amour, vous croyez en l'amitié. En fait, vous pouvez dire que c'est pas une croyance, mais par exemple, entre rationalisme et irrationalisme, par exemple, on croit qu'il y a des choses, en fait, parce qu'on est conçu, on nous a inculqué ça, on croit à ce rationalisme-là, de l'autre côté, à l'irrationalisme. Or, en fait, les choses sont liées. Par exemple, enfin, on croit qu'on est dans un champ, et alors on est dans l'autre. Par exemple, pour la science, il y aurait, par exemple, des gens qui vont faire des choses pour la médecine, des gens qui vont faire des choses en médecine, des choses magiques pour guérir. Et puis d'autres qui sont très scientifiques et qui vont faire quelque chose de très scientifique, des chirurgiens, etc., qui opèrent, donc ça paraît très scientifique. Au fond, on s'aperçoit que les gens qui vont croire dans le rationnel sont, en fait, ont des choses assez rationnelles. Par exemple, tel plan, tel effet. Et ceux qu'on croit dans le rationnel sont, au fond, des trucs complètement irrationnels. Par exemple, faire un signe pour réussir une opération, c'est quelque chose d'irrationnel pour un scientifique, pour un chirurgien. Mais pourtant, il le fait, ce signe. Donc, quelque part, les choses ne sont pas où on croit, on ne croit pas. C'est des mélanges, en fait. Et c'est ça, ce mélange. Et si on a cette posture de se dire que chacun... enfin, je trouve... on reprend le truc de la résultante, c'est-à-dire qu'il y a des centaines de milliers de gens qui vivent dans un contexte et tout ça se croise, les appartenances, la culture, la façon dont on est éduqué, ce qu'on nous a dit de croire ou de ne pas croire, ce qu'on croit nous-mêmes ou ce qu'on croit ne pas croire, mais ce qu'on ne sait pas à qui on croit. Et enfin, tout ça se mélange. Et finalement, vous ne pouvez pas dire... C'est comme celui qui est ultra laïque, en fait, croit parfois plus que par exemple, le théâtre de gauche, mais croit en sa laïcité, parfois de façon plus forte et plus. Ce que je voulais dire par rapport aux musulmans, enfin, parce que je suis dans un milieu où je côtoie beaucoup de musulmans, ce qui est très intéressant dans cette histoire des musulmans, c'est que. Dans un monde, enfin, moi je suis plongée dans mon travail dans un monde musulman en fait, l'idée de Dieu ne peut pas être remise en question au fond. C'est pratiquement impossible. Non, mais je vous dis le contexte pour reprendre le truc, pourquoi c'est super intéressant ces mouvements-là. Parce que dans un contexte où c'est difficile de dire ouais, mais moi je crois à rien, je suis athée, etc., c'est très difficile de dire ça. Il y a beaucoup de risques aussi physiques pour la personne, et bien du coup, d'inventer autre chose et d'inventer quelque chose qui soit libre, et surtout de dire en fait, je ne veux pas d'un Dieu qui soit un Dieu de pouvoir, parce que c'est ça la différence, c'est un Dieu de pouvoir ou un Dieu de non-pouvoir. C'est un Dieu de non-pouvoir, et le pouvoir, c'est moi qui l'ai.
C'est commencé par le remettre en question.
Il y a des religions laïques. Tu veux causer, vas-y. Il y a Anne, René, Pierre et
moi je pourrais.
Oui, ben vas-y, réponds.
J'en profite.
Si vous...
Le raccord pour répondre.
Voilà.
Voilà. On n'est pas là pour dire il faut croire ou il faut pas croire.
Voilà. Il y a Daniel qui voudrait prendre la parole.
Sans doute.
Ouais.
Bien sûr. Mais c'est mon avis. On est en train de.
Non, mais.
Non, mais on est pas en train.
Il y a des gens qui croient, il y a des gens qui croient pas. Il y a des gens qui croient qui se réclament de l'anarchisme. Il y a des gens qui croient pas et qui se réclament de l'anarchisme. Mais ça, on est là, on se rend compte pour discuter de ça.
Daniel, si tu veux répondre.
Après, oui, excusez-moi de court-circuiter, mais c'est vrai que ça répond à la question quand on dit qu'est-ce que Dieu. Donc la réponse, c'est Dieu, c'est un mot. Les mots, c'est des signifiants qui renvoient toujours à un signifié. Quel est le signifié de Dieu? Et c'est là que ça ouvre des perspectives extraordinaires, puisque sous ce mot, on peut mettre un grand nombre de choses. Donc, je rappelle le texte de Bakounine où il dit « Appelez ça Dieu si vous voulez », c'est mettre un signifiant. Or, après, on lit ce que dit Bakounine et on dit « Ah ben oui, je suis d'accord », mais on s'aperçoit que le Dieu de Bakounine... il est aussi absent que le dieu de Spinoza. C'est éventuellement du panthéisme, mais encore même pas. Parce que le mot dieu ne devient pas... Et on peut le remplacer par nature. D'ailleurs, moi, dans des discussions que j'ai eues avec des musulmans, moi, j'ai eu des discussions où tout le monde comprenait quand on dit « moi, je crois dans la nature ». Alors maintenant, j'en arrive sur l'expérience qu'on met dedans et sur cette histoire de croyance. C'est vrai que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure que l'athéisme anard, il avait des liens avec l'athéisme petit bourgeois voltairien. Il a des liens, mais il s'en distingue énormément. Et il s'en distingue par le fait que le rationalisme petit bourgeois, c'est un rationalisme d'épicier, en gros. C'est-à-dire de quelqu'un qui calcule, qui est rationnel, qui est la logique. C'est la logique d'Aristote, enfin, je ne sais pas comment dire. C'est le dieu des philosophes. C'est-à-dire que moi, le côté souffreteux de Pascal m'insupporte. N'empêche que Pascal, je suis ému quand on trouve dans sa poche... Bon, il est croyant, enfin, personne n'est parfait, mais... Et on trouve dans sa poche Dieu, Jésus-Christ, donc lui c'est Jésus-Christ, Dieu d'Abraham et de Jacob, pas celui des philosophes et des savants, c'est celui de Voltaire. Celui de Voltaire, il s'en fout de Dieu. Donc le Dieu, il y a d'un côté un rationalisme étroit, et quand des camarades anarchistes ont été en Tunisie, souvent l'anti-religieux anarchiste, il se coule dans Jules Ferry et la Troisième République, où tout le monde a dénoncé l'école de Jules Ferry. Dites-vous bien qu'il y a des aspects positifs, puisque même la religion a des aspects positifs. Mais c'est une catastrophe globalement, pas autant que la religion, mais presque. Donc l'école de Jules Ferry. Et donc on prouve l'inexistence de Dieu. Or en fait, revenir à la racine de l'expérience vécue par les gens. Donc quand vous allez faire grève, tout le monde part du sentiment de chacun. Qu'est-ce qu'on fait ? Et s'il y en a 10 qui disent qu'ils préfèrent prendre leurs ITT, je ne sais pas quoi, eh bien, c'est foutu. Donc, ça repose bien sur la croyance. Non, mais je ne polémique pas avec vous. Hein. C'est la croyance, c'est le fait que je vis une expérience. De vivre, c'est quand même... c'est extraordinaire.
Vous dire individuellement.
Non, c'est collectif, bien sûr. C'est là ma divergence avec Ibsen. C'est que c'est trop individuel, Tolstoï. Le bonheur qu'on a, c'est quand même quand vous êtes... Moi, j'ai quand même vécu ça et je l'ai vu autour de moi. Quand vous êtes une centaine à sortir de votre lieu de travail ensemble en disant « merde au patron », vous avez un sentiment exaltant qui n'a rien d'individuel, qui est vraiment...
Vous
êtes
dans la foule,
là. Et oui, ah non, c'est pas une foule, c'est un collectif, c'est un être social, dira Proudhon. Un être collectif. Non, je plaisante.
Il y a des gens même dans un mouvement collectif, qui n'osent pas le dire parce qu'ils sont pris dans un mouvement foule. Voilà.
Ah non, la foule, c'est horrible. La foule qui va lyncher quelqu'un au coin de la rue.
Se parler d'un rationalisme expliqué, enfin voilà, c'est très péjoratif. Moi, je parle d'un rationalisme, je suis rationaliste. Mais comment faites-vous la critique de la religion par la croyance, alors? Moi, je suis critique de la religion par la rationalité. Ouais. Comment vous êtes critique?
Par la croyance.
Par la croyance.
Eh bien, en suivant, par exemple, Nietzsche, c'est un bon critique vers la croyance. C'est-à-dire que dans la religion, découvrir que ça a un côté mortifère. Je sais plus, j'ai vu un film il n'y a pas longtemps où il y en a un qui se... Ah non, c'est un film con sur Vichy. Quelqu'un m'a prêté. Enfin, bref. Façon, mais dans la religion, c'est ce problème d'évaluer la qualité. Et là, on a des repères philosophiques proches de l'anarchisme. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est porteur de puissance et de joie, et qu'est-ce qui est porteur de diminution de puissance et de tristesse. La religion, il y a quand même un côté tordu. Quand vous voyez écouter parler un dignitaire religieux... Enfin, après, c'est un jugement, justement, où on se confronte les uns les autres.
Ouais. Bon, je vais pas monopoliser la parole.
Anne.
Ton enthousiasme pour les mystiques, pour Al-Hajj, pour Sébastien Bouquin, j'ai un bouquin de ses poésies. C'est magnifique d'un texte poétique. Simplement, avant qu'il arrive à dire je suis Dieu, hein, il sort dans la rue, et je suis Dieu, il a quand même passé une vie entière à faire des exercices mystiques. Il y a un cheminement ascétique qui a pris toute sa vie. Bon, si on a envie de consacrer sa vie et essayer de rencontrer...
Regarde les masochistes, voilà.
Moi, je n'ai pas les moyens de les en empêcher, hein, de toute façon. Et ce n'est pas juste comme ça qu'un beau jour, je sors dans la rue et je me dis « je suis Dieu ». Il y a quand même passé sa vie avant d'être Dieu.
Mais je reconnais que c'est un bon moment quand même, ça valait le coup.
C'est magnifique, parce qu'il est écrit, c'est magnifique. Effectivement, il y a de quoi se parler d'admiration. C'est de la poésie. Bon, vu de la poésie, c'est très bon. Des grands espoirs dans le schisme. Quand même, tous ces gens-là, c'est des quiétistes. C'est-à-dire qu'ils disent, nous, le pouvoir, on s'en fout. Il faut les laisser faire. Ils veulent exercer leur pouvoir. Nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de rencontrer Dieu. Alors, moi, je veux bien que tu mettes ton espoir là-dedans.
On monte un sketch. On monte un sketch, on va faire les villes entières. Bon, t'as une façon de les couper les ailes aux autres.
Attends.
Et puis il y a un autre aspect. Je crois qu'il y a aussi un truc d'occidentaux, on s'émerveille devant les soufis, tout ça. Bon. Des soufis, il y en a plusieurs, hein. Il y en a plusieurs sortes. En Turquie, il y avait des soufis de la frontière, c'était des grands mystiques. Et dans leur grande mystique, ils partaient à la conquête de. Il fallait agrandir le Darak Islam. Il fallait agrandir. Bon, c'était vachement mystique. C'était des soufis mystiques, des soufis de la frontière. Ils prenaient les armes, hein, conquérir, élargir le Dar al-Islam. Bon, t'as les quiétistes, t'as les soufis de la frontière, moi je...
Non mais reconnais que s'ils se développent des anarchistes, ça devient intéressant. Sauf s'ils prennent ce mot...
Parce que l'anarchisme, attends. C'est quand même l'anti-autoritarisme, c'est quand même le combattre l'autorité quelle qu'elle soit, et quand même une religion, elle est forcément supérieure. Alors on dit qu'il y a forcément un dieu en plus, donc c'est quand même une autorité, donc elle est prête à combattre.
Oui, mais reconnais que si chacun pense qu'il est dieu, ça va être un peu comme un collectif anarchiste.
René-Pierre, tu voulais dire quelque chose ?
Anne l'a bien dit, moi j'ai envie de dire de la lutte de classe. Hein, tout ça.
Ouais.
Puis après toi.
Je comprends ce que tu voulais dire, c'est par rapport au mouvement dans les pays du Maghreb, du monde arabo-musulman, tout ce qu'on veut, on ne peut pas balayer d'un revers de main rationaliste, de dire, alors, vu qu'ils sont anarchistes, mais quand même qu'ils se définissent comme croyants, ce n'est pas notre famille. Non. Il y a un contexte social, il y a un contexte historique qui fait qu'une émancipation prenne tel ou tel chemin, et tant que c'est anti-autoritaire et que ça va vers l'émancipation, je pense que c'est positif. Après, moi, par rapport à mon expérience en Turquie, un athéisme ou une laïcité à l'occidental importée en Turquie qui a donné le kémalisme, ça donnait un truc qui n'était pas très joli à voir, et j'avais des copains au vecteur conscience antipique qui étaient assez mystiques, Et puis, nous, on n'est pas à l'abri de notre propre mystique, quand même, dans les mouvements. Il y a des élans mystiques dans une manif, dans un projet d'action. Je ressens, il ne faut pas.
Madame ?
Moi, je suis anarchiste et je n'ai pas la prétention de savoir si les autres le sont ou pas, quels que soient les groupes. Ça va à l'encontre, quand même, de l'anarchie pour moi. Et je voulais revenir sur ce que tu as dit au départ. Alors, j'ai fait bien, parce que je me suis un peu perdue dans le débat. Pour moi, alors moi je fais une totale différence entre croyance et religion. Enfin, d'abord pour moi, je parle bien de la religion là. Et pour moi, l'idée de religion, c'est justement que les gens ont l'habitude d'avoir quelqu'un qui est supérieur à eux, qui leur donne des règles de fait, qui ne sont pas discutables parce que c'est des règles qui viennent de je crois bien, là, voilà. Et qu'au final, on finit par croire, accepter des règles qu'on nous apprend petit pareil, comme l'État, le patriarcal, toutes ces choses-là. Et que c'est, pour moi, la religion, c'est super néfaste parce que ça nous donne une éducation de soumission, de soumission acceptée.
Et justement, la croyance, tu disais, tu fais la différence entre croyance et religion, qu'est-ce que... Tu les mets pas dans le même sac, donc ?
Mais non, parce que la croyance est trop large pour être juste par rapport aux religions. Voilà. C'est ce que tout le monde a un peu dit à sa manière. Enfin, moi, je crois en l'anarchie. Quoi.
Voilà, c'est ça, oui, on est obligé. Oui.
Bah
c'est
voilà.
La
religion
mais... à l'homme être une fiance, donc c'est une vie, quoi.
Non, moi, je pensais à un exemple, parce qu'on a parlé, la morale laïque, elle peut être athée et castratrice et horrible. Hein, et je pensais à l'argument... L'argument avant, un enfant lui disait, enfin moi j'ai eu une fille, toute cette histoire de la loi du père, il faut fixer des limites aux enfants s'ils n'ont pas de... Et donc les filles... Il n'y a pas un truc...
Non, t'inquiète pas, hein? C'était le dernier là, c'est le dernier débat.
Donc avant on disait, va te laver... non, c'était comment dis ta prière avant de manger. Alors il disait, dis ta prière. Et après on dit... On dit à un enfant, va te laver les mains. Et les enfants qui sont très rationalistes, mais au bon sens du terme, cette fois, ils disent, pourquoi il faut que je me lave les mains ? Quelle est la réponse des parents, laïque, stricte ? Parce que c'est la loi, c'est exactement ça. C'est-à-dire quand vous dites parce que, la loi, le lacanisme est aussi...
Attends, vas-y.
Ah ben voilà. Si t'es anarchiste. Voilà. Mais moi je parlais de...
Non. Ah ouais, peut-être des problèmes de clim alors. Non mais tu voulais dire quelque chose ? Non, mais tu voulais dire quelque chose ?
Non, juste que j'étais intéressé par ce que tu as dit tout à l'heure. Effectivement, des fois c'était pas, ça pouvait être un peu mouvement. Et à la limite, anarchisme de religion, à la limite, on n'a pas forcément besoin de reconnaître en l'autre quelqu'un de notre famille propre pour avoir envie de faire des choses avec lui. Et que moi, par exemple, je suis apostat, athée, j'ai connu des familles catho de gauche, mais malgré tout, j'ai choisi d'être apostat. Depuis que je suis apostat, je m'aperçois, malgré tout, que j'ai dans les luttes que je mène, au jour le jour, des contacts avec des gens qui sont croyants. Qui sont croyants, pas forcément dans un mouvement de foule, mais qui peuvent l'être de façon pas forcément exubérante, messianique. Et je les trouve, et de loin, pour certains, beaucoup plus fréquentables qu'un certain nombre de militants, voire de militants libertaires, qui sont pénibles et terribles. Donc, ce que je veux dire, c'est que.
Ouh là là.
C'est-à-dire que je pense que tout ça, ça peut être un indicateur, évidemment, qui n'est pas dans tout beau et tout ça. Non. Sauf que dire croyant anarchiste, ça ne dit pas tout de l'émancipation par laquelle on veut aller. C'est ça que.
Oui, vas-y.
Tout à l'heure, j'ai dit ça parce qu'il me semblait que c'était important de reconnaître toutes les croyances des gens, mais évidemment, pour moi, l'anarchie, c'est justement de ne pas faire d'injonction à l'autre, y compris celle de ne pas croire, en fait. Pourquoi on va dire aux gens de ne pas croire ? C'est ça, s'ils se sentent anarchistes et qu'ils croient, c'est leur problème, en fait.
Il faut voir ce que ça donne, quoi.
S'ils n'exercent pas de pression sur les autres, je ne vois pas en quoi. Et moi, j'ai une question finalement aussi l'enjeu par rapport à tout ce que les autres personnes disaient sur un socle commun. Est-ce que s'il y a un retranchement parce que des gens croient alors qu'ils sont dans des mouvements et qui croient mais qui sont isolés, est-ce que cette exclusion-là, elle ne crée pas justement plus de crispation sur les religions et du coup, l'exclusion produit les intégrismes, en fait. C'est ça l'enjeu aussi, moi, il me semble. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Si quoi, mais j'ai pas...
Est-ce que l'enjeu, ça ne serait pas aussi si on en tant que personne qui n'a pas de religion, en tant qu'anarchiste, dans des luttes, les gens se retirent parce qu'ils sont avec des croyants ou qui désapprouvent certains mouvements parce qu'ils mêlent la religion ou des croyances. En fait, ça, c'est des risques d'exclusion de personnes. Et qui dit exclusion dit aussi, comme ceux qui recrutent dans les banlieues pour des choses, pour aller à la guerre, des choses comme ça, c'est-à-dire que l'exclusion de certaines personnes qui se disent la mise à l'écart de croyants crée aussi des intégrismes. Enfin, moi, il me semble,
non, mais c'est là où il y avait la réponse de René Pierre derrière qui répond bien à ça. Oui, c'est...
Attends,
je voulais répondre. Parce que... non, mais parce que, bon, je disais, tout le monde fait des trucs avec des tas de gens très différents. Moi, ma famille est catho, mes voisins sont juifs, je fais des trucs avec eux, on fait des actions de quartier, je vais à des manifs avec des gens qui... Mais je leur demande pas d'être à l'art. C'est là le truc, c'est pour ça que j'ai parlé comme ça. C'est qu'il y a plein de gens qui ont des tas de valeurs, avec qui je m'entends bien, avec qui les relations sont tout à fait cordiales et même parfois amicales. Mais ça n'a rien à voir avec peut-être mon idéal libertaire. Voilà, je veux dire, faut pas tout mélanger. C'est pas qu'on a un idéal libertaire qu'on va être stigmatisé ou s'insurger contre les autres. Moi je suis d'une très très grande tolérance, les gens croient ce qu'ils veulent, ça m'est pas tout égal. Mais là on parle de religion et anarchie, c'est pour ça que je me suis...
Non, mais... Oui, mais je crois que ce que tu disais tout à l'heure, ça implique un autre problème qui est celui de la grève, qui est celui quand un mouvement se lance. C'est-à-dire que je ne sais pas comment. Quand tu te mets en grève, il se passe un phénomène collectif qui transversalise, je ne vais pas dire transcender, parce que justement on est contre, et qui transversalise les appartenances. C'est-à-dire que toi, ce que tu décris, ça serait une forme de, c'est une forme de coexistence œcuménique ou libérale, de chacun les goûts et les couleurs. Mon refus de Dieu, il s'inscrit quand même dans mon rapport au monde. Et donc, s'il y a une grève, c'est un élément. L'exemple qu'on peut donner, c'est le syndicalisme. CGT, le syndicalisme anar, il faisait aucune discrimination dans quelqu'un qui rentrait dans le syndicat. Avec deux choses, c'était pour défendre les intérêts. T'es un ouvrier, viens, on est tous ouvriers, c'était une première chose. Une deuxième, c'était la certitude que la pratique et l'expérience allaient conduire forcément à se rejoindre sur une critique du Dieu extérieur. Voilà. Bon, c'est pas clair là, mais. C'est-à-dire qu'en fait, à quel moment on diverge avec l'autre ? À quel moment ? Ça va arriver. Enfin,
tu voulais continuer, René Pierre ?
Oui, non, si on se retrouve dans la grève, bon, la ligne de fracture, c'est pas ceux qui croient, ceux qui ne croient pas. Mais si ça progresse, on va finir par progresser. Mmh. Et dans ces situations-là, c'est intéressant. Mmh. C'est pas comme ça en l'air, mais c'est.
On aurait dû finir, mais on a commencé un peu plus tard aussi.
Je voulais dire.
Il va falloir fermer. Oui.
Je voulais quand même dire, on a une expérience pour les vieux comme
on
nous.
Ferme le salon à 6 heures.
On a une expérience sur une longue période. C'est-à-dire qu'il y a un syndicat d'origine chrétienne, la CFTC, qui a été très proche des mouvements libertaires dans un grand nombre de secteurs. Donc ça veut dire que l'expérience, et moi j'ai fait des petites recherches pour mon boulot dans les années 60. Le syndicalisme français, il a eu une branche d'origine chrétienne et très marquée. Et donc moi, qui suis moi-même d'origine chrétienne, j'ai eu beaucoup d'espoir, ça a participé d'un même truc. Et c'est vrai qu'avec du recul, mais je le dis ça comme ça, c'est un peu pessimiste, je pense que comme les gens qui ont été très marxistes ça crée un espèce d'habitus, je prends le vocabulaire, qui fait que le... Voilà, non, mais je suis un peu pessimiste sur ce que ça a donné, quoi. C'est-à-dire que du côté anard, il y a une révolte où il n'y a pas de filet, quoi. Mmh. Les gens, ils prennent des risques. Voilà, les cathos... Enfin, je ne vais pas finir en disant du mal des cathos. Ah, ça n'a rien à voir avec. Non, mais je parle de la CFDT, de l'IP et des... Voilà.
Bah, on peut arrêter, si... parce que là, parce que dans 10 minutes, on ferme le salon.